pas de chance.
C'est que c'était différent.
C'est pas du tout la même chose.
Oui,
hein,
c'était différent. Lorsqu'ils font mais on débattait et on essayait de comprendre en réalité c'était quoi le problème.
Pas comparer la Sorbonne à Sciences Po, c'est pas la même culture.
On comprenait toujours pas ce que c'était le problème.
C'est pas la même culture.
Je peux vous donner un scoop à dire.
Non, mais c'est important à dire ça.
Un scoop à dire.
Oui, bien sûr. Jonas Haddad.
À part les élus de la France Insoumise, il y avait un seul autre élu qui allait physiquement à devant Sciences Po, c'est votre serviteur. Et je me suis rendu à Sciences Po vendredi soir.
Ah.
Avec mon écharpe de la région, parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Et je peux vous assurer que ce qui se passe à Sciences Po, pour avoir discuté avec les élèves par la suite, c'est vraiment la faillite de ce qu'on appelle l'élite.
Racontez-nous de façon.
En fait, c'est
objective.
Très simple. Gabriel Attal avait eu un mot juste, le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire que cette école, qui était l'école de l'élite, qui demain va former les cadres de notre pays, qui vont être des dirigeants, des hauts fonctionnaires, etc., est totalement envahie par une pensée d'extrême gauche. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est une minorité. Et vous savez pourquoi c'est une minorité? Parce qu'en interrogeant les étudiants de Sciences Po, ils m'ont dit qu'il n'y avait seulement que 40 étudiants de Sciences Po qui bloquaient réellement la fac, et que tous les autres autour, les Coquerel, les Panot, les Boyard, toute la clique là, plus les militants professionnels d'extrême gauche, j'ai vu des étudiants qui avaient 60 ans quand même.
Ça a toujours été de gauche.
Pour le coup, ils sont venus bloquer. La semaine d'avant, Jean-Luc Mélenchon faisait une conférence dans laquelle il était accueilli comme une star. Et la semaine d'avant encore, dans une conférence de soutien, il y avait des étudiantes qui étaient suspectées d'être de confession juive qui avaient été exclues. Si j'ajoute à ça les démissions de trois directeurs successifs, le fait qu'aujourd'hui, on demande à des gens d'écrire en écriture inclusive dans leur copie, vous savez, cette écriture qui est très militante, dans leur copie à Sciences Po. Cette école est rongée par une idéologie qui est mortifère, qui provoque la division de notre pays. Et donc, j'étais le premier, vendredi soir, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter, j'étais le premier à demander à ce que cette école soit mise sous tutelle du gouvernement.
Non, mais
d'ailleurs,
c'est
incroyable. La personne de Renaissance, c'est quand même incroyable. Monsieur Macron, quand il veut réformer l'ENA, il le fait. Il change l'ENA, il supprime l'ENA. Et il se passait rien.
De parle de mettre son sous tutelle depuis ce matin.
Vous
étiez le premier depuis ce matin.
Il faut mettre cette école sous tutelle. Et d'ailleurs, je souligne, je salue Valérie Pécresse qui a coupé les subventions.
C'est bien, tu vois. Au moins, il fait de la politique et c'est clair. Moi, je trouve les propos de Valérie, ces propos-là, moi, je les trouve tout simplement scandaleux parce que je suis très, très attaché à la liberté. Et à un moment donné, on peut pas avoir un double discours en fonction des sujets. Parfois, c'est on a le droit de débattre de tout et parfois, on n'a pas le droit. Il faut appliquer les règles pour tout le monde. La région, quand les élus viennent se mêler et font de l'ingérence dans la gestion de cette école, comme d'une autre fac, parce que il n'y a pas que Sciences Po qui forme des élites et de très loin. Et les étudiants de Sciences Po sont des gens extrêmement avisés. Ne les sous-estimez pas en les évaluant. Moi, j'ai enseigné à Sciences Po jusqu'en 2015. Et sont des gens extrêmement
ça a beaucoup changé.
Avisés. Mais moi, ce qui me dérange dans cette affaire, il y a une chose qui me dérange, c'est cette ingérence, cette interdiction. Laissons faire les gens. Moi, j'ai été étudiant à la Sorbonne.
Nous sommes dans un état de droit.
Mais à un moment donné, il faut. Moi, je trouve que dans ce pays, il y a une atteinte.
Tout mettre sur l'extrême gauche.
Exactement. Il y a une atteinte forte à la liberté. Et ça devient grave. Parce que quand on touche à votre liberté d'expression.
Et la liberté d'étudier.
C'est pas l'étape suivante. On a été étudiant. On a fait nos études. On a eu des manifs.
J'étais contre les blocages.
J'étais étudiant à l'époque de Devaquet. 3 mois de blocage de la fac.
Moi, je suis
et
pas
ça
pour.
Nous a parlé. Mais on avait cette liberté
gens des classes sociales
de défendre
plus,
les
plus
droits.
Pauvres de s'en
laisse
sortir.
Les gens des classes sociales se gérer eux-mêmes.
Mais j'en fais partie. Si, moi j'en fais partie.
Ni leur porte-parole. Mais peu importe. Moi, je parle pas au nom des classes sociales.
Les leçons des bourgeois de gauche de Sciences Po, je m'en fous en fait.
Laissez les gens.
C'est pas ça, c'est que depuis De Gaulle.
Nous sommes dans un
état. Ça monte au
sommet.
Laissez les gens s'exprimer. C'est mon rôle, Karim. Vous inquiétez pas.
Il y a un point.
Je suis là. C'est mon en rôle, ne soyez pas frustrés, Karim, je suis là pour ça.
Allez-y, Karim.
Je laisse prendre part, parce que sinon, après, ça fait école, sinon. Ouais, tiens, ta. Laissez-moi, vous inquiétez pas, Karim.
C'est Adil qui dit ça.
Mais je n'ai rien dit, mon cher Adil.
Non, ce que je voulais dire, c'est que historiquement, déjà, depuis l'après de Gaulle, hein, c'est connu, on a distribué un peu tous les postes, hein, que ce soit donc la justice, le pouvoir, etc. Et l'enseignement, la culture, le livre, etc. Ben, on a laissé ça à la gauche. À l'extrême gauche, et aujourd'hui on se pose des questions en se disant et tout, bah tiens, les communistes, l'extrême gauche, les insoumis.
Je laisse
la terminer. Oui, on l'a compris.
J'ai passé 3 jours à Sciences Po.
Comme jeunesse.
J'en ai fait 4 par pied. Ouais. J'ai discuté avec beaucoup de monde. J'ai vu des hommes politiques, des journalistes, j'ai vu des étudiants. Ce que j'ai vu, mais je n'ai jamais pensé une seule fois de ma vie, depuis que je vis 30 ans en France, que je pouvais entendre un discours de haine violent, un discours méprisant. C'est un discours raciste, antisémite.
Non.
Je peux terminer.
Raciste,
j'étais présent. Bien sûr, les étudiants ont tenu des discours. Ouais. Ils ont exclu des étudiants juifs. Ils ont occupé des locaux d'une manière violente. Ils ont fait des saluts nazis. Ils ont mis les drapeaux palestiniens.
Mais c'est pas de l'antisémitisme.
Vous avez vu des saluts nazis.
Je vois. En fait, je vois à quoi il fait référence. C'est pas des saluts nazis, mais on a vu. Vous savez les mains rouges.
Il y a eu des choses. J'étais présent.
Les mains rouges, oui.
Mais l'interprétation.
Vous avez raison, laissez-le parler. Allez-y, allez-y, Karim.
Je les ai vus. Si je les ai pas vus, est-ce que quelqu'un était sur place? Moi, j'ai été sur place. Il y a un mélange entre le sang et le salut nazi. De manière volontaire qui a été fait. De manière volontaire. Après, si chacun peut interpréter. Mais c'est dans une université française. Dans une université française, on empêche même d'étudiants de rentrer. Une minorité de 40, 50, 60%, 60 personnes qui étaient là. Il n'y avait que les Mélenchonistes. Il y avait des gens qui sont là à défendre le Hamas, à dire que le Hamas est une nouvelle résistance.
Attendez, vous avez lancé un débat.
Oui.
On va en parler. Avez terminé ou pas?
Oui, j'ai terminé si vous voulez.
Allez. Non, mais Karim et Rachid Théori, Jean Sadat.
Juste deux mots.
Réagissez.
Dans toutes les grèves et les blocages de fac, c'est toujours une minorité. Là, il y a 2 ans, quand il y a eu les grèves à la Sorbonne, et je sais de quoi je parle, parce qu'à l'époque, mon fils est encore à la Sorbonne. C'était quoi? C'était une 30aine d'étudiants qui bloquaient. Et on n'en a pas fait tout un cinéma. Et on n'a pas dit derrière, on va arrêter les subventions à la Sorbonne. Donc je pense que ça a toujours existé. Moi, j'étais étudiant en 86, Malik Ousekine, de Baquet, etc. Et il y avait des mecs qui venaient et puis qui nous emmenaient. D'ailleurs, il y en avait un qui s'appelait Emmanuel Valls, parce que j'ai été étudiant à son époque et qui est devenu quand même Premier ministre de la France. Donc arrêtons de stigmatiser les institutions françaises. Si vous estimez, vous, d'ailleurs, vous êtes qui pour estimer que Sciences Po n'est plus une école d'élite, eh bien, les grandes entreprises arrêteront de les recruter. Et les grandes écoles en
Pourquoi
France.
Vous dites ça commence. Attendez, dites quelque chose quand même d'important.
C'est intéressant.
Il dit que ça commence.
Moi, j'ai vu des étudiants à Sciences Po vendredi soir qui m'ont dit, depuis que la fac a suivi ce virage indigéniste et wokiste, nous trouvons de moins en moins de jobs parce que notre diplôme est dévalorisé. Et d'ailleurs, si vous interrogez.
Mais pourquoi indigéniste entre guillemets,
pourquoi indigéniste? Oui. Ben, je vais vous donner 2 exemples.
Oui, c'est vrai, parce que les propos, je les trouve forts quand même.
Ah ben, je vais vous donner 2 exemples. La première, c'est que dans le communiqué de presse de la direction de Sciences Po après vendredi soir, il a été envisagé de ne plus faire aucun partenariat avec les universités israéliennes. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on a supprimé pour l'entrée à Sciences Po le concours de culture générale pour favoriser des quotas pour représenter un certain nombre de quartiers sans même demander un quelconque concours. Donc, ceux qui visent.
Ah, mais ça y est, on y vient, les fameux accords avec les zones. C'est honteux ce que vous dites, c'est honteux.
Pourquoi ?
C'est parce que c'est grâce à ces accords qu'on a supprimé cette sélection à la gueule.
Mais vous n'avez pas eu besoin de quota, vous. Vous avez réussi sans quota.
Non.
Alors, pourquoi c'est honteux ?
C'est une réalité.
Est-ce qu'il y avait des quotas ?
C'est ça ce qui vous dérange.
Est-ce que vous, il y avait des quotas ?
Jordan Bardella ne dirait pas mieux.
Est-ce que vous, il y avait des quotas ?
C'est une.
Est-ce que vous. Jonas Sadat, il vous répond, attendez, c'est le. Vous scandalisez, j'entends.
Parce que les étudiants qui viennent des quartiers, qui font leurs études à Sciences Po, sont des étudiants extrêmement brillants.
Dans l'ordre.
Et franchement, il faut le souligner.
Vous voyez, je pense que j'ai touché un point sensible.
Jonas Sadat, s'il vous plaît.
Foutez la paix aux étudiants.
Regardez.
Exactement.
Foutez la paix aux étudiants.
Bien sûr, foutez la paix aux étudiants.
Je touche un point sensible parce que ni vous, ni moi, on a eu besoin de quotas pour bosser et pour avoir des bons jobs. Et là, j'ai touché à un point parce que je trouve qu'aujourd'hui, la méritocratie à la française, qui n'est pas la méritocratie à l'américaine dans laquelle on fait de la discrimination positive, ça vous rend hors de vous.
Mais la méritocratie à français, elle n'existe pas.
Ah bon?
J'ai eu énormément de chance.
Ah,
et je fais partie
chance, du
0,001% qui en a chié. Mais c'est pas parce que moi j'en ai chié qu'on doit continuer. Parce que je vais vous dire une chose, parce que vous avez pas l'air d'être conscient de ce qui se passe, et c'est normal, vous n'êtes pas concerné.
Ah bon?
Quand on est concerné,
qui vous dit ça?
Vous connaissez pas son histoire.
Non, mais c'est pas ça. Tu sais très bien.
La sélection faciale demandait à valoriser des profils issus de personnes qui ont du mérite.
Mais justement,
donc arrêtez de voir des quotas. On est pas aux États-Unis.
La sélection. Mais moi, je suis favorable à ces quotas-là. Je vous rappellerai une chose. C'est grâce à ces quotas qu'on a élevé la femme dans les grandes entreprises. C'est grâce à ces quotas qu'on a imposé des femmes au bord des entreprises du
cap.
Vous mélangez le sexe et les origines.
C'est la même chose.
Non, vous mélangez tout là. Mais là, vous mélangez tout.
C'est une discrimination.
Juste, on revient un peu à ce qui se passe.
Et on va se calmer. Faut que ça redescende un peu.
Ce qui se passe à la Sorbonne, mais dans d'autres universités aussi. C'est qu'on a vu un discours wokiste qui a triomphé. On a vu un discours indigéniste, et je signe, je persiste. Je vu indigéniste racialiste, je signe, je persiste. J'ai vu aussi un discours d'exclusion contre la direction.
C'est son point de vue que voulez-vous que je vous dise.
Je le répète, contre la direction de la Sorbonne, qui est disqualifiée de gérer cette école, décide de rompre les partenariats avec Israël, comment on peut appeler ça? Comment peut-on appeler ça? Aujourd'hui, plusieurs fondations ont décidé déjà de couper les vivres à cette école, dont la fondation Jean-Paul Fitoussi. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional, et je souhaite que l'État décide de prendre en charge cette université. On ne peut pas laisser une université française.
Elle vous parle, elle vous dit que c'est très grave.
Non, mais elle peut dire que c'est très grave. Il faut prendre les moyens nécessaires de rendre l'université son espace de débat, de réflexion et de recherche. Mais c'est pas un affrontement.
Au détriment d'une petite minorité.
Mais attendez, c'est la minorité.
Vous savez quoi? Imaginez que dans une école soutenue par l'État, d'accord, il y a des gens d'extrême droite.
C'est l'argent des contribuables.
Attendez. Il y a des gens d'extrême droite qui viennent.
Je vais vous dire une chose. Vous pouvez pas parler tous en même temps parce que l'auditeur.
Ah oui, c'est vrai.
Je vous le dis clairement, il a beaucoup de mal à vous suivre. Franchement, écoutez-vous, s'il vous plaît, respectez-vous. Le réalisateur, il en peut plus. Mais c'est vrai parce que l'auditeur, il se plaint. Jonas Haddad.
Je dis juste, imaginez que des militants d'extrême droite investissent une école, bloquent l'école alors qu'ils ne sont pas en grande majorité, c'est quelques-uns, et ils ramènent des groupes un peu fachos autour des groupes identitaires. Qu'ils pavoisent l'école, excusez-moi, on est en France, d'un drapeau étranger. J'étais à Sciences Po vendredi, je vois des drapeaux partout sur l'intégralité de la façade. Et vous ne seriez pas choqués?
On marque une pause. Je vous donne la parole. On marque une pause. 0153483000. Tiens, les auditeurs ont la parole et je voudrais vous entendre exprimer évidemment votre point de vue. Et je vous redonne la parole aux deux Karim et à Rachida Kaoui. Il faut qu'on avance aussi. Il y a Mathilde Panot demain qui lance un rassemblement. Alors, est-ce que c'est quoi? Comment il faut l'entendre? C'est le chaos après moi ou avant moi ou voilà, on va en parler.
C'est de la poudre aux yeux.
Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h41-01-53-48-3000. Les informés avec Rachida Kaout, l'élu de Divry-sur-Seine avec le conseil régional du côté de la Normandie, Jonas Haddad. L'élu de Bondy, c'est Karim Alouache, banquier d'affaires, mais également aussi le journaliste et l'entrepreneur Karim Malou. Tiens, Sarah qui nous attend depuis tout à l'heure, Sarah, qui nous appelle de Paris. Les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, Sarah, on l'accueille. Bonjour, bonsoir, Sarah.
Oui, bonsoir, Ferkan. Donc, moi, je suis vraiment très outrée parce que je viens d'entendre.
Alors, dites-nous, outrée par quoi et par qui?
Par l'ensemble de vos invités.
Oui.
Je trouve que c'est un peu fort ce qui s'est dit sur.
Oui.
Sur l'école
vous écoute.
Polytechnique.
Oui.
Et voilà.
Sciences Po, c'est pas Polytechnique.
Plutôt Sciences Po, excusez-moi. Et donc, moi, je comprends pas. Il y a eu des sanctions quand la Russie elle a attaqué l'Ukraine. Il y a eu tellement de sanctions. Toutes les semaines, la Commission européenne se réunissait pour infliger des embargos et des sanctions à la Russie. Là, il y a eu l'attaque d'Israël. Eh bien, personne. Les enfants, ils sont tués, ils sont affamés, et personne ne parle. Et on veut, les politiques n'en parlent pas. Les médias mainstream, ils ont parlé 5 minutes pendant, je ne sais pas moi, quelques mois. Jamais ils en parlent de ce qui se passe en Palestine. Et là, on voit des gens qui disent, parce qu'il y a eu des futurs politologues dans voilà, qui sont outrés, qui réclament l'arrêt des
Sarah de Paris. J'ai compris. Moi, ce que je comprends de ce que vous dites dans vos propos, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est ce que j'ai compris en un mot. C'est ça, j'ai compris. Jonas Haddad, ça tombe bien, il est avocat. Jonas Haddad. Non, mais vous allez tous répondre.
Ils sont tout à fait d'accord.
Sarah, attendez. Non, Karim Aloua, il n'est pas d'accord du tout. Karim Aloua, il est comme vous. Il est comme vous. Alors, Jonas Haddad vous répond.
Première chose, c'est que nous sommes français et que comme nous sommes français, évidemment, s'il y a des sanctions, par exemple, vous parlez de la Russie et de l'Ukraine, c'est important de se positionner d'un point de vue international, mais ça n'a pas impacté nos facultés. Vous n'avez pas vu de facultés qui ont été...
Laissez-le finir, Sarah.
Vous n'avez pas vu de facultés qui ont été bloquées pour soutenir les Ukrainiens.
Bon. Bah, aux États-Unis, il y a bien des facultés, beaucoup de facultés qui soutiennent la Palestine.
Oui, mais
alors,
madame.
Pourquoi pas ici.
Mais
du moment que les politiques ne se positionnent pas.
Vous...
Les politiques ne se positionnent
mais,
pas.
Mais madame,
je trouve que c'est tout
mais,
à fait
mais
normal
si, mais si.
Que les Palestiniens soient morts.
Madame,
ils ont dit que c'était des animaux.
Personne ne trouve ça. Personne ne trouve ça normal.
Laissez-le répondre.
C'est juste que comme nous sommes en France, on a un équilibre à trouver et que l'équilibre, c'est comme dans Russie-Ukraine, on n'a pas à être aligné sur la politique d'un gouvernement. On fait de la politique au niveau international.
Vous êtes aligné
mais...
sur la politique d'Israël.
Madame, on n'est pas aligné sur la politique. Mais
alors,
qui a bloqué des facultés pour les Ukrainiens?
Non.
Ça n'existe pas. Regardez, je reprends votre exemple, madame.
Karim, attendez,
le gouvernement, dès le début, il est avec l'Ukraine. Donc, il n'y avait pas de possibilité pour que les gens se mettent.
Alors, Karim Malou vous répond. Karim Malou. Karim Malou vous répond.
Chère madame, je pense on est pour l'existence de deux États, un État palestinien, un État israélien, on est pour la paix, il n'y a aucun souci, madame. Par contre, en nous dénonçant uniquement les gens qui considèrent que le Hamas est une organisation de résistance, les gens et qui justifient le pogrom du 7 octobre, c'est des criminels, ce sont des terroristes, ce sont des islamistes, ceux qui ont déclaré la guerre. Je pense le problème de la Palestine, du Gaza qui se pose aujourd'hui, il faut une solution. Les seuls, madame, qui refusent, les seuls qui refusent de venir à la table des négociations sur le Hamas. Aujourd'hui,
c'est Netanyahou qui refuse.
Aujourd'hui, même sur la table, et Netanyahou l'a mis aujourd'hui sur la table, il n'y aura pas d'attaque sur Rafah. Il n'y aura pas d'une attaque à une condition. Tu libères une partie des otages. Mais le Hamas ne veut pas libérer les otages, madame. Tant que tu ne libères pas les otages, la guerre ne s'arrêtera pas.
Là, c'est les médias mainstream. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai.
Donc, Rachida. Rachida Kaout.
Oui, bonsoir madame, merci pour votre intervention. Ce que je tiens quand même à souligner, c'est que aujourd'hui, vous avez deux peuples qui sont en train de souffrir de cette situation. Le premier, donc les Israéliens, qui ont été attaqués le 7 octobre, avec des familles qui ont été enlevées, des enfants, des grands-parents, etc. Je pense que là-dessus, on est tous unanimes pour dénoncer ce qui s'est passé. Et vous avez le peuple palestinien qui souffre aujourd'hui, si vous voulez, eh bien, de la folie furieuse, si vous voulez, d'une justice qui aujourd'hui en fait ressemble à une vengeance. Vous voyez, vous avez même les Israéliens et les Juifs sont en train de dénoncer ce qui se passe. Évidemment que nous ne voulons pas ces massacres, nous voulons que ça s'arrête et que nous trouvions une solution aujourd'hui à cet État pour qu'il puisse être divisé en deux, un État juif, un État israélien, un État palestinien.
Les Israéliens ne veulent pas de ça.
Je ne parle pas des Juifs,
je parle des Israéliens.
Oui, non,
des sionistes.
Alors, vous savez, madame, là, on mélange.
Là, on est parti sur un autre sujet, là. On est parti sur un autre sujet. Alors, si vous voulez, Sarah, attendez, je vais quand même recadrer. C'est un autre sujet. Là, on s'est un peu éloigné. Évidemment, je vous ai laissé l'aborder chacun à tour de rôle. On l'abordera Sarah, cette question-là, vous savez, elle fait partie évidemment de façon récurrente chez nous ici. Karim Alouache, et je vous libère, Sarah, merci pour votre intervention.
Alors, moi je voulais
vous dire, parle de la violence des jeunes, absolument.
J'entends bien ce que vous avez exprimé, et c'est ce que j'ai défendu. On doit laisser les étudiants s'exprimer, on doit laisser les écoles intervenir sans leur faire des coups de pression, même si c'est des minorités, ça a toujours été des minorités dans les universités, mais c'est le principe de liberté de nos étudiants, de pouvoir dire ce qu'ils pensent, de pouvoir défendre des causes, quelles qu'elles soient. L'essentiel, c'est qu'ils puissent avoir cette liberté. Par contre, elle est en train de dévier sur autre chose, parce que j'ai entendu des choses, et ça me revient et ça me travaille. Sciences Po n'est pas devenue une mauvaise école. Et ceux qui voudraient, et qui commencent à véhiculer le bruit de « Ah ben oui, c'est parce que il y a des jeunes, des quartiers, qui font leurs études à Sciences Po, avec les accords des quartiers, que Sciences Po, en gros, c'est devenu une poubelle. » C'est un véritable scandale. C'est de la discrimination.
Non,
c'est
je pense qu'on n'a pas dit ça.
Il y a ces propos-là, moi, je les combats. Et je vais vous dire une chose. Quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie, on a mis des drapeaux ukrainiens sur le fronton des mairies. Eh bien, quand un autre pays est attaqué, qu'on mette des drapeaux, ça ne me choque pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, et j'ai condamné les événements du 7 octobre, comme tout le monde, parce que pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la violence, mais il y a 34 000 personnes civiles, enfants, femmes, massacrées, et ça doit vous faire réagir.
C'est faux.
Ça doit vous faire réagir.
C'est faux ce que vous dites.
Ah bon, il n'y a pas de...
D'où viennent vos chiffres ? D'où viennent vos chiffres ?
34 000.
Qui vous donne vos chiffres ?
Eh oui,
ça vient d'où ? C'est la Hamas qui vous l'a donné, monsieur. Vous répétez la propagande du Hamas. Allez, citez-moi, monsieur, je vous diffuse. Je vous
dis, monsieur.
Allez, c'est immense.
C'est simple, sur toutes les chaînes de télé.
Ah non, c'est pas
la source.
Tu prends BFM, c'est les chaînes que tu aimes bien.
La source, ce n'est pas le sujet du jour. Je voudrais qu'on parle de la violence des jeunes. Voilà. Gabriel Attal qui a reçu les chefs de parti. On en reparlera. Vous savez, c'est un sujet, je vous le dis, mais ne dérivez pas sur une question qui en amène une autre. Après, la violence des jeunes. Parlons-en justement, puisque Gabriel Attal aujourd'hui, il a reçu toutes les familles politiques.
Oui, la violence aujourd'hui de nos jeunes est vraiment très inquiétante. Je pense que au sein de nos auditeurs, je suis persuadée je suis persuadée aussi que de nombreuses familles subissent ce phénomène qui est grave et qui est un phénomène de société, de notre société, où il y a une faille dans la matrice. Et cette faille, elle vient forcément, soit des réseaux sociaux, soit du milieu social dans lequel vit l'enfant, au point d'arriver aujourd'hui à retirer la vie gratuitement. C'est-à-dire que cette violence aujourd'hui se traduit par la mort. Est-ce que vous imaginez ? Et ça ne choque personne.
On fait un tour de
tous les jours, on entend tous les jours, et ça ne choque personne.
Jonas, vraiment en peu de temps, s'il vous plaît.
Très rapidement, madame, votre constat est juste. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous appartenez à une formation politique qui a supprimé toutes les formes de sanctions depuis qu'elle est arrivée. Elle a supprimé les peines planchers pour ceux qui sont les plus violents. C'est l'héritage de Taubira, et madame Belloubet n'a rien changé. Donc en fait, vous laissez dans la rue les gens les plus violents, et après vous étonnez des conséquences. Et deuxièmement, vous n'acceptez pas qu'on réforme la minorité, c'est-à-dire qu'en gros on sanctionne davantage des gens qui ont moins de 18 ans, pour qu'on ne laisse pas dans la rue des gens qui sont extrêmement dangereux mais qui n'ont qu'un 16 ans. Donc moi, je partage votre constat, mais je comprends pas pourquoi vous faites pas.
Ça a dû vous échapper, parce que depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons sorti tout un arsenal, justement. Ouais. Alors nous ne sommes pas dans la sanction.
Mais d'un autre côté, la violence a explosé.
Nous ne sommes pas dans la sanction, mais dans l'éducation.
Très court.
Nous battons le record de la violence, des agressions, des incivilités, des attentats depuis quelques années. C'est un constat, c'est ce qui fait la force du Rassemblement national. Nous devons oser l'autorité. Nous avons besoin d'autorité dans ce pays. Et le problème qu'on a, c'est le problème de notre justice. Tant que la justice ne fonctionne pas bien,
s'il vous plaît,
on est complètement
désarmé. Karim, très court, s'il vous plaît. Karim Alouache, très court.
C'est pour ça qu'on met les moyens qu'il faut.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Très court. Il y a eu 176 000 homicides commis par des jeunes de 15 à 29 ans dans le monde depuis le début de l'année. Ces 30% sont commis par des enfants. Moi, j'ai pas une solution miracle. Ce que je peux vous dire aujourd'hui pour vivre et être concerné par ces quartiers et ces banlieues, la notion de vie ou de mort a disparu. Elle a complètement disparu. Et il va falloir.
Karim, je lance le quoi de neuf.
Je sais pas ce qu'il faut faire.
Éduquer vos enfants.
Il faut remettre les parents aussi au centre. Il faut les aider à tenir leurs
enfants. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informer. Le quoi de neuf,
vous savez, je suis obligé, parce que sinon on va se mettre à la bourre, mais grave. Michel Thau, bonjour.
on a un agenda.
Michel Taube.
Farkan et bonjour aux auditeurs.
Allez, les débats sont passionnants ici, vous savez. Michel Taube, allez,
oui,
on va essayer.
J'entends des choses très intéressantes. Absolument. La personne qui dit qu'il faut redonner l'importance à l'autorité.
Parental.
Est-ce qu'il faut éduquer les enfants?
Allez.
Absolument.
Je vous lance parce que vous êtes directeur d'Opinion Internationale et vous devez nous parler. Votre billet d'humeur tourne autour de Raphaël Gusman et évidemment ce qui peut nous attendre dans le cadre de cette campagne élection européenne.
Alors effectivement, il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin. Et d'ailleurs, j'appelle tous les auditeurs de BFM à aller voter le 9 juin. C'est un acte citoyen et l'Europe, c'est notre avenir, donc il faut aller voter. Mais je voulais insister sur effectivement la montée importante de Raphaël Glucksmann. Pourquoi est-ce que Glucksmann marque autant de points dans les sondages? En fait, il est en train de se passer la chose suivante, c'est que il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que la Macronie est en train de s'effondrer. Et je pense que fondamentalement, tous ceux qui ont mis leur espoir dans la Macronie sont en train de revenir au bercail et près de la moitié, peut-être plus de la moitié d'ailleurs, des macronistes venaient de la gauche. Et donc je pense que les déceptions multiples qu'a suscité Emmanuel Macron font que beaucoup vont voter Glucksmann, c'est-à-dire le leader des socialistes, c'est-à-dire quelqu'un qui est perçu comme un humaniste. Donc la Macronie est en train de se vider, de sortir de son lit, et beaucoup de macronistes revenir au bercail, celui de la gauche classique. Et il y a un deuxième phénomène, c'est que Raphaël Glucksmann est en train de prendre sur les écologistes beaucoup de place. Il a une dimension écologique dans son programme et pour cause, parce que Europe Écologie Les Verts, qui est en apparence écologiste mais qui sont en fait des véritables pastèques, c'est-à-dire vert dehors mais très rouge à l'intérieur, et bien beaucoup d'électeurs sont déçus par le programme de Marie Toussaint. Et d'ailleurs, je me permets de citer, il y a un autre candidat qui est en train de monter, qui s'appelle Jean-Marc Governatori, le président d'Écologie au Centre, et qui a un vrai programme écologiste, pragmatique, efficace, et qui, à mon avis, gagne à être connu. Mais pour ce qui est de Glucksmann, il est en train de prendre sur les déçus de la Macronie et sur les déçus de l'écologie, d'Europe Écologie au Centre. Et c'est pour ça qu'il progresse. Mais au final, c'est les électeurs qui auront le dernier mot le 9 juin, et il faut aller voter le 9 juin. Voilà ce que je veux dire sur la liste.
Merci mon cher Michel Taube, merci infiniment. À lundi prochain sans faute pour un autre billet d'humeur dans le Quad 9. Merci Michel.
Merci, bonne soirée.
Et il a raison de nous le rappeler, il faut plus que jamais aller voter et encore voter. Merci
Rachida Kaout. Aujourd'hui en fait, il faut que tout le monde aille voter. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, elle n'est plus à nos portes, elle est au sein de nos foyers.
Merci,
sur
Rachida
nos paliers.
Kaout. Merci Jonas Haddad, à bientôt.
Votez pour garder la cohésion du pays.
C'est bien.
Votez pour vous faire respecter par les personnalités politiques.
Un vote est un acte citoyen. Votons.
Exact. Merci à vous, Kat. C'était.
Et on ne lâche rien sur.
C'était costaud aujourd'hui. Attention. Hein. C'était costaud aujourd'hui, les amis. Hein. Merci à la patience de notre réalisateur Solal.
Oui,
Solal, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, le pauvre Solal. Allez, il n'en pouvait plus.
Moi, j'ai joué Solal, j'ai rien.
Bilal, Time Sport. Ensuite, c'est Vanessa à 21h. Kim demain matin. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, vous savez ce qu'on dit ici tous les jours.
On ne lâche rien. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la redille.
Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Ce mardi 5 mars 2024, on est ensemble, c'est l'avant-match. Et oui, soir d'Europe, la Champions League édition 2023-2024. Au menu de cette émission, on va parler de quoi ce soir avec vous, rien qu'avec vous, chers auditrices et auditeurs, d'Mbappé dans le 11 type. C'est la question que l'on s'est posée, ou même peut-être sur le banc pour commencer ce huitième de finale retour. Sans plus tarder, on va vraiment donner la température avec Luis Enrique et ses hommes. A-t-il la solution ce soir pour ce match retour? On rappelle, le match aller s'est déroulé le 14 février, jour de Saint-Valentin, remporté par le Paris Saint-Germain 2-0. Et oui, dans son entrequet, le Parc des Princes. Et aussi, on reviendra aussi sur le deuxième huitième de finale de la soirée. C'est le Bayern de Munich qui rencontre à la maison année, l'Asialiste. Et voilà, la Lazio de Rome, le club italien. On aura Nasser, on aura beaucoup de monde sur cette antenne ce soir au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard d'ailleurs. Le débat du jour, on le rappelle, avec ou sans pression, ce Paris Saint-Germain. C'est la question que l'on s'est posée et qui fuse aussi sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne ce soir. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Ah ben ce soir on est chaud du côté du Pays Basque espagnol. Juan José malheureusement est en conférence, il n'a pas pu être avec nous, mais nous on rejoint donc Saint-Sébastien, et oui, dans cette région qui est la région basque espagnole, avec toute l'équipe de Time Sport ce soir pour m'accompagner. On aura qui? On aura Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir. Comment ça Bilal, va Mathieu? Bonsoir tout le monde. Et écoute, oui, ça va très très
soir
bien.
Soir d'Europe Mathieu, et tu arbores une magnifique coupe de cheveux.
C'est oui. Je t'ai le rappelé buscut, ça. Le buscut est sorti.
Ah ben voilà. Ça lui va très très bien.
Blague à part, il y a beaucoup de monde sur la route.
Et oui, beaucoup. J'ai cru que, en région parisienne, surtout, sur le périph.
J'ai cru que j'arriverais pas à l'heure, c'était une extrémisme. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et on va beaucoup s'amuser ce soir.
Ah bah bien sûr, il est avec nous ce soir, c'est Benji qu'on a pu reconnaître. Bonsoir Benji, comment ça va?
Voilà, qu'est-ce évidemment. Ah, y a on est déjà d'humeur espagnole, évidemment. Ah bah oui. On a hâte de voir cette ambiance à Saint-Sébastien. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté, sur la route, j'ai pas à me plaindre. J'ai mis le même temps que d'habitude. Donc pour le coup, je vais pas me plaindre et j'espère que coach Maurice sera meilleur au micro qu'il n'est sur Football Manager, bien évidemment.
Bien sûr, il y a eu pas mal de choses en tout cas hein, concernant ce match-là. On a Solal aussi. Solal, il est derrière sa table de mixage. Il est avec nous, c'est le réalisateur qu'on pourra retrouver malheureusement. Il sera à l'antenne avec Vanessa. 21h-23h. Bonsoir Solal. Voilà, Solal, il a sorti le drapeau du Paris Saint-Germain.
On va enflammer les studios de la FM pour cette équipe de rouge et de bleu, le Paris Saint-Germain.
Il a assez chaud, Solal.
Donnez-moi
bien sûr, ah ben voilà, c'est Solal, Solal, aïe aïe aïe.
Il est chaud bouillant.
Et ouais, oui. il est chaud, vraiment, 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 il est chaud. Justement, avant de partir du côté de Saint-Sébastien, c'est au Pays Basque, on va revenir un peu sur un épisode qui allait tourner au drame entre les supporters de la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Ouais. Un drame a été évité selon la Guardia.
Oui, oui, ouais. on a eu cette information dans, en début d'après-midi qui est sortie, comme quoi les autorités espagnoles avaient pu mettre la main sur de nombreux objets contendants et ouais. Il y a eu des informations sur le fait qu'il y allait avoir des affrontements entre des ultras de la Real Sociedad et des ultras du Paris Saint-Germain. Après on dit ultras un peu à tort et à travers, enfin en tout cas ce qui s'apparente à des supporters, à des groupes de supporters, si on peut appeler ça comme ça. Lorsque tu vas aller te foutre sur la gueule, tu fais plus de mal à ton équipe et au c'est football ça. En règle générale,
on est d'accord.
Que tu ne les supportes. Donc bah, bien joué aux autorités espagnoles, parce que sinon on aurait encore fait la une pour les mauvaises raisons, et c'est pas ce qu'on veut. On a envie de voir une magnifique rencontre de Ligue des Champions ce soir entre deux très belles équipes et dans un centre Sébastien qui va être absolument complètement dingue. Ouais. Et c'est surtout de ça qu'on a envie de parler, mais une fois de plus on a évité un drame et
justement le spectacle 21h qui commence, et l'avant-match sur l'antenne de Beurre FM, la Real Sociedad, c'est la deuxième manche, hein, 8e de finale retour. On rappelle le score à l'aller, 2-0 pour les hommes de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain. Les compos, excusez-moi.
Ah, bah, juste...
ah bah oui, les compos.
Vous prévoyez déjà la mort du Paris Saint-Germain ce soir.
Les compos viennent de tomber. Non, oui. On l'espère pas. On espère oui. Justement la qualification du club oui. Français. On les a. On peut les balancer. Benji, l'espagnole ou la française?
Bah je vais partir sur le PSG que je suis en train de voir.
Le Paris Saint-Germain.
Donc, on aura Donnarumma dans les buts. Le retour de Nuno Mendes, tant attendu par les supporters du Paris Saint-Germain, qui, si je dis pas de bêtises, n'avait pas foulé un terrain depuis 30 avril dernier. Donc très très intéressant de voir son retour, qui est évidemment le titulaire à son poste. Et si il est en forme, attention à voir comment il va arriver. Ouais. Lucas Hernandez, Beraldo enfin en défense centrale. Ça fait du bien aussi pour lui de pas le voir sur le côté gauche, parce que très bon défenseur central, sur le côté on a toujours eu plus de mal. Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery pour le milieu à 3, et offensivement on aura la triplette, la classique depuis un petit moment, Bradley Barcola, Kylian Mbappé qui est bien présent en pointe de l'attaque, et Ousmane Dembélé sur le côté droit.
Ah ben voilà, ça c'est pour la composition du Paris Saint-Germain. On va partir pour la Real Sociedad avec Mathieu. Mathieu, on t'écoute.
Ouais, avec Remiro dans les buts, Traoré, l'ancien Rennais côté droit, Zubeldia, le retour de Lenormand en défense centrale, Galan à gauche, Mendes, Zubimendi, Merino. Devant, ce sera Becker et le retour d'Oyarzabal avec le japonais Kubo.
Alors, un mot, c'est de compo, justement. Mbappé passe sur le banc. Il est bien là, Mbappé.
Il est bien là.
Il va commencer.
Et...
ouais.
Et sans surprise, ah ouais, j'ai envie de dire, on a eu un peu cette guerre d'ego que. Moi, j'appelle ça une guerre d'ego dans le sens où on sait que Kylian Mbappé.
Pas mal de choses ont été dites.
Voilà, comme tous les grands champions.
Bien sûr, on a l'habitude.
Ont de l'ego. Et comme tous les grands entraîneurs et comme le très bon joueur qu'il était, Luis Enrique, a également un ego qui est plus que présent, qu'il a mis de côté pendant tout le début de saison, notamment sur le cas Kylian Mbappé. On l'a vu mettre certaines de ses valeurs de côté, notamment lorsque on sentait qu'il avait un traitement différent sur Kylian Mbappé que sur les autres joueurs. On sait qu'il aime les systèmes qui sont très bien rodés, qui sont très précis. Et quand tu le voyais en conférence de presse dire que Kylian Mbappé faisait un peu ce qu'il voulait en attaque et qu'il lui laissait le champ libre, ça correspondait pas du tout à la méthode Luis Enrique. Et donc ça ne m'étonne pas qu'on ait eu un peu ce clash par médias interposés, même si Kylian Mbappé n'a pas spécialement pris la parole. Luis Enrique n'a pas été tendre, ou en tout cas a laissé sous-entendre avec notamment le non-verbal, si j'ai envie de dire, son body language comme on dit, qu'il était agacé par la situation et que selon lui, ce que cela signifiait, c'est qu'un joueur qui ne reste pas au Paris Saint-Germain l'année prochaine est un joueur qui l'empêche de trouver son système et de trouver des automatismes pour l'année prochaine. Donc sur ce point-là, moi je le comprends. Je sais que beaucoup de supporters parisiens et même de supporters de football sont d'un avis de se dire ton meilleur joueur c'est Kylian Mbappé, de très très loin. Tu dois le mettre titulaire, c'est un énorme salaire, tu dois le rentabiliser,
c'est vrai.
Mais tu dois aussi penser à l'avenir, et quand t'as un joueur qui ne sera plus là et dans lequel tu es dépendant quasiment lorsqu'il est sur le terrain, c'est très important pour moi aussi de trouver des systèmes tactiques quand Kylian Mbappé n'est pas là. Cependant, je pense que pour un match de Ligue des Champions de cette importance-là, si tu te prives de Kylian Mbappé et que tu perds le match, que tu te fais éliminer, c'est rideau, c'est à plus, c'est à ciao.
Ah, ça c'est bien dit. C'est fort.
Maintenant, Kylian Mbappé,
pour toi,
avec tout le respect que j'ai pour Kylian Mbappé, sa grande carrière, etc., il a été remplacé contre Rennes. Le PSG était mené, le PSG est revenu en fin de match, certes avec un pénalty litigieux, on en a déjà parlé. Il est sorti à la mi-temps contre Monaco 0-0, le PSG n'a pas perdu sans lui, le PSG n'a pas été plus mauvais sans lui non plus, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que on n'a fait que parler de cette histoire Luis Enrique, cette bataille d'ego comme tu disais Benji. Maintenant, parce que tout le monde était choqué, ah mais Kylian Mbappé sort, parce que personne n'a osé sortir Kylian Mbappé quand il n'a pas été bon. Kylian Mbappé est bon à presque tous les matchs, mais il y a des matchs sans, il y a des matchs où il est moins bon.
On est d'accord.
Et il restait sur le terrain. Là, Luis Enrique, alors peut-être que le fait qu'il n'ait pas voulu prolonger,
c'est une évidence.
Ça a joué là-dessus également. Mais lors du match face à Rennes et Monaco, il n'a pas été excellent.
Non.
Donc, maintenant, de voir la réaction de Kylian Mbappé, d'aller en tribune, de ne pas se mettre à côté de ses coéquipiers sur le banc, j'ai trouvé ça inadmissible. Parce que ça ne doit pas être le comportement de ton joueur phare, de ta star, de ton capitaine du soir, parce que Marquinhos n'était pas là, du capitaine de l'équipe de France, on le rappelle. Capitaine de l'équipe de France,
qui sort à la mi-temps, qualifié pour l'Euro 2020.
C'est comme ça, je vais prendre ma douche et je vais aller à côté de ma mère en tribune. Ça, c'est pas un comportement à avoir.
C'est pas un comportement de
par
leader.
Par rapport à la star et au leader de cette équipe.
Bien sûr.
Maintenant, le fait qu'il soit titulaire ce soir, c'est somme toute logique, parce que, comme l'a dit Binge, c'est ton meilleur joueur. Maintenant, si ton meilleur joueur ne fait pas les efforts, ne met pas la recette requise pour jouer un match de cette envergure-là, ça ne m'étonnerait pas de revoir Luis Enrique sortir Kylian Mbappé.
Mais Kylian Mbappé va mettre les ingrédients ce soir, parce que Kylian Mbappé, selon moi, même si tu le vois quand il sort aller en tribune, machin et tout, qui est un comportement absolument minable, que je ne partage pas bien évidemment, parce que ça te montre directement la scission qu'il a avec l'effectif, avec le coach et avec encore cette guerre d'ego, on en parle, mais c'est littéralement ça.
Je parlais de Kylian Mbappé, mais Luis Enrique, le fait de, comme tu disais tout à l'heure, de lui donner carte blanche entre guillemets dès le début de saison, et depuis qu'il a appris qu'il n'allait pas prolonger, il l'a mis un peu de côté, il a fait des déclarations dans la presse un peu cash. Mais après voilà, ça a toujours été le style de Luis Enrique d'être un peu comme ça. Mais voilà,
il y a toujours énormément d'ego.
Les deux ont leur part de responsabilité et les deux ont une grande carrière et les deux ont un très fort ego et donc du coup à un moment donné ça clash.
Ça clash et c'est normal. Mais surtout au-delà de ça, j'allais expliquer que pour moi Kylian Mbappé ce soir allait mettre les ingrédients dans le sens où comme on n'a pas arrêté de le dire, l'objectif de Kylian Mbappé c'est de marquer l'histoire du football dans sa globalité, d'aller chercher un maximum de records, d'aller remporter un maximum de trophées. Et qu'il parte ou qu'il parte pas, il va pas se dire je vais faire à moitié parce que l'année prochaine je serai plus au Paris Saint-Germain, je serai au Real Madrid, donc je vais pas partir en laissant le Paris Saint-Germain dans la mouise. Non, parce que lui il voit son intérêt personnel, tu vois, au-delà de, je pense que pas que, parce que on va être honnête, là on est en train de faire passer Mbappé pour quelqu'un qui ne voit que son nombril. Non, c'est pas que là, ça, c'est là. Pas que ça. Il va bien jouer le match, il va mettre tous les ingrédients.
Attention.
Parce qu'il a l'objectif d'aller chercher la Ligue des Champions pour son palmarès forfait. Personnel, évidemment, c'est une certitude, mais parce que aussi il a envie que plus tard on parle de lui comme le joueur qui a pu me permettre au Paris Saint-Germain d'aller gagner une Ligue Champion et de laisser une trace positive pour le club aussi. Ouais. Je pense qu'il aime aussi le club. Je pense qu'il n'est pas non plus fermé uniquement dans son prisme de joueur de football. Mais c'est il mettra les ingrédients. Parce que même s'il n'a pas envie de le faire pour le club, pour X ou Y raison, ce que je ne pense pas, il a envie de le faire pour lui. Donc il mettra les ingrédients et c'est pour ça qu'il est titulaire ce soir et qu'il continuera à l'être en Ligue des Champions, là où tu as moins de marge en Ligue 1. En Ligue 1, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains matchs où il ne soit pas directement sur l'affiche et où il sort comme ça s'est passé face à Rennes. Parce que Luis Enrique veut préparer l'avenir, veut préparer son équipe pour l'année prochaine, c'est-à-dire une équipe sans Kylian Mbappé. Et je pense,
Faire en tout cas.
Voilà. Et si je pense que si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose.
D'accord ou pas avec Benji ou Mathieu, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On a aussi Chekib de chaque match qui nous dit attention, Asensio forfait aussi. Allez, on donne la parole à Solal, voilà, à la réalisation.
Oui, voilà. 01 53 48 3000. D'accord ou pas d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'autres joueurs intéressants dans ce PSG.
Alors lesquels?
Le PSG et restera le PSG avec ou sans Kylian.
La situation
Kylian
au-dessus.
Fait plaisir à ses fans, fait plaisir aux fans de football. Mais ce soir, c'est le PSG qui joue avec aussi notamment des joueurs. Voilà, tu parlais d'Asensio, mais qui ont connu déjà cette Ligue des Champions à travers différents clubs, qui ont connu des grandes coupes à travers différents clubs. Et c'est ce soir, je pense qu'il y aura et j'espère qu'il y aura surtout un engouement autour de cette équipe-là, de ces supporters qui seront pas forcément tous présents ce soir-là, mais qui seront au moins devant leur poste ou devant leur poste radio. Et finalement, ce qui va m'intéresser ce soir avec ce PSG, c'est aussi cette adaptation en Ligue des Champions avec ou sans Mbappé dont on parle tant. Et des joueurs comme Nuno Mendes qui reviennent dans ce bain-là. On a aussi des nouveaux joueurs qui vont venir fouler ce sol de la Ligue des Champions auquel on va apporter un œil très particulier forcément. Mais en tout cas, je serai chaud patate derrière cette équipe du PSG.
Ah ben voilà, Solal les encouragera.
Toute ma confiance pour cette Ligue des Champions.
On l'espère, Solal. On va pas le perdre comme Nasser l'autre fois.
Tout à fait.
Il est avec nous justement. Assez confiant. Attention, Benji. On en parlait avec Mathieu la dernière fois, le coach Tolé à prendre avec des pincettes, nous disait avec Vivien la semaine dernière, il faut pas que ça fasse des remontadas. Cette petite pression des supportrices, des supporters parisiens, on le sent pas, mais il est au fond de nous. Vous voyez cette peur?
Bien sûr.
Si on a un gros effectif et une grosse équipe, quoi.
Mais bien sûr, quand t'as quelque chose qui te traumatise autant, les traumatismes, par définition, c'est quelque chose qui te tient dans la durée et qui forcément te marque pour très longtemps et de manière négative. Et d'ailleurs, la Real Sociedad ne s'en est pas cachée, la presse locale non plus, en jouant sur le thème de la remontada, que ce soit aussi bien le coach que ce soit la presse, ont pas arrêté de remettre le sujet sur la table en disant que c'était pas perdu, qu'on était capable de faire une remontada face au Paris Saint-Germain, alors qu'évidemment on n'est pas dans la même situation, très loin de là.
Avec
mais attention,
tout le respect, que j'ai pour la Real Sociedad.
Mais attention, premier but marqué, c'est peut-être une évidence, mais Mathieu,
attention,
à Saint-Sébastien, tu concèdes l'ouverture du score, t'es mené 1-0, attention à la réaction. Et c'est là où ça va être intéressant. Je pense que le Paris Saint-Germain est capable, même en encaissant le premier but, de savoir relever la tête et de poser un maximum de soucis à cette Real Sociedad qui, en plus de ça, n'est pas dans la dynamique de sa vie, que ce soit déjà au match aller, que ce soit maintenant. Ce n'est pas la même Real Sociedad qu'en début de saison, c'est pas le même jeu proposé. Après, ils récupèrent aussi des joueurs blessés qui leur posaient soucis pour construire un jeu. C'est un petit peu mieux, mais
est-ce
ils sont en train, au fur et à mesure, de retrouver
ces joueurs-là.
C'est ça, c'est le temps qu'ils reviennent. Attention quand même, notamment à cette entame de match. Si le Paris Saint-Germain met les ingrédients dès le début de rencontre et qu'ils arrivent à marquer les premiers, je pense que déjà on pourra plus s'attarder sur notamment moi, ce que je vais regarder, c'est la connexion Nuno Mendes Bradley Barcola sur le côté, qui risque d'être l'un des atouts majeurs peut-être pour la saison prochaine pour Luis Enrique, que justement on parlait d'après Mbappé. J'aurais pas spécialement les yeux rivés sur Mbappé ce soir, mais plus sur les joueurs autour, voir comment ça va connecter.
Mais après voilà, moi j'aurais un peu plus les yeux sur Mbappé, voir justement son langage corporel, voilà, de voir comment il se déplace sur le terrain, de voir ses replis défensifs, est-ce qu'il fait un petit peu plus d'efforts que d'habitude. attitude. Est-ce que voilà, il va parler avec ses coéquipiers de l'attaque, Barcola, Dembélé, est-ce qu'il va parler aussi à Zaïre Emery par rapport à ses ballons qu'il peut mettre en profondeur, etc. Voir son langage corporel, voir comment il se positionne, comment il rentre dans son match, ouais. ça va être très important. S'il arrive à se créer une occasion dès les premières minutes, ça va peut-être le mettre en confiance, ça va peut-être le motiver à faire plus, à marquer et à qualifier son équipe pour les quarts de finale.
Vous restez, ouais. Non, mais moi, je vais vraiment me focus sur plus des joueurs aux alentours. Je pense notamment à Beraldo en défense centrale, que j'ai très très hâte de voir sur un match de Ligue des Champions, qui a peut-être pour certains pas encore les épaules, qui n'a pas encore prouvé et qui peut être un peu limité. Moi, je pense que c'est un joueur qui a vraiment un bel avenir dans le futur, et c'est en jouant ce genre de rencontre que tu progresses et ou que tu permets de prendre du galon. Donc, j'aurai vraiment un œil dessus ce soir.
Allez, on va avoir un œil de près sur ces joueurs du Paris Saint-Germain et de la Real Sociedad. On le rappelle, hein, c'est le 8e de finale retour de l'édition 2023-2024 de la Champions League avant l'Euro 2024 qui aura lieu du côté de l'Allemagne. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditeurs, et on revient rapidement.
Time Sport revient dans un instant.
Beurre FM, la redille.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi soir de Ligue des Champions, on le rappelle, 20h19. Et oui, à 21h, ça sera le match retour de ce 8e de finale qui opposera la Real Sociedad au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, non pas de Kylian Mbappé, hein, c'est Luis Enrique, le boss, ou c'est Mbappé. On va en revenir sur ça. Allez, c'est parti.
Time Sport. La parole des sociaux.
Comme le mentionnait si bien les pages sport de nos confrères du Monde, et oui, le statut d'intouchable de Kylian Mbappé, un enjeu pour la Ligue des Champions. Pas que pour cette Ligue des Champions de l'UEFA, mais aussi pour le club phare de la capitale française qui est le Paris Saint-Germain et sa direction. Et oui, ça pose problème, on a l'impression, avant la fin de cette saison. Oui, Mathieu.
Moi, ça m'agace.
Allez, en fait. Ça t'aurait pile les poils, alors vas-y.
Ça m'agace.
Il vient de déchirer son t-shirt pendant la pub en
parlant. Rigole pas, Mathieu.
Ça m'agace parce que ça fait deux semaines, un mois qu'on fait que parler de ça. On parle du transfert de Kylian Mbappé au Real ou non, de sa prolongation ou non, de sa prise de tête avec Luis Enrique, mais on parle pas du fond de jeu, on parle pas des mauvais matchs qui s'enchaînent du Paris Saint-Germain.
C'est la télé-réalité Ligue 1.
Non, mais alors, 5 minutes, faut arrêter 5
attention,
minutes,
attention,
hein,
parce que le naming va changer peut-être. Hein.
Faut arrêter les conneries 5 minutes. Qui est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur les deux derniers matchs? Gianluigi Donnarumma.
Oui.
Est-ce que c'est normal?
Donnarumma, le portier. Bon, il est bon.
Il est bon, mais c'est pas normal quand ton gardien est meilleur joueur deux matchs de suite, c'est qu'il y a un problème. Mais maintenant, on nous dit oui, mais vous comprenez le truc avec Kylian, tout le monde peut-être. Non, mais ça va 5 minutes. Qui décide?
Oui.
C'est l'entraîneur qui décide ou c'est le joueur?
Non, c'est le plus gros salaire du club.
Non,
c'est l'entraîneur.
Non, ça non
c'est l'entraîneur. Il a raison,
Arrête.
C'est l'entraîneur. Je rigole. Ta question rhétorique.
À un moment donné, c'est. La dernière fois, Mora parlait d'institution. Ouais. Si le PSG est une vraie institution, qui doit décider? C'est l'institution, c'est l'entraîneur. Tant que les Qataris là-haut disent pas à Luis Enrique.
Oui.
Tu dois faire jouer Kylian Mbappé. À ce que je sache, l'entraîneur, celui qui est payé pour être sur le banc au Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique.
C'est ça.
C'est Luis Enrique qui est payé pour faire les feuilles de match, pour faire le 11 type. Si Kylian Mbappé n'est pas à 100% physique ou mental pour jouer un match de Ligue 1 ou Ligue des Champions,
ou juste qu'il ne le juge pas apte à jouer pour X ou Y,
qui décide? C'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Luis Enrique. Si Kylian Mbappé n'est pas content, on peut comprendre, parce que c'est la star de ce Paris Saint-Germain. On l'a déjà répété maintes et maintes reprises. Maintenant, le comportement qu'il a lors de ces dernières semaines, il n'est pas bon.
Il n'est pas bon selon toi.
On parle d'un capitaine, des fois, du Paris Saint-Germain, comme Marquinhos n'est pas là.
Et de l'équipe de France.
L'Euro 2024 aussi.
Il faut poser la question à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, ce qu'il pense du comportement de Kylian Mbappé aussi.
Oui.
Parce que je ne suis pas sûr que Didier Deschamps apprécie énormément son comportement non plus.
Ah, je ne sais pas.
Maintenant. On va revenir au Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain qui joue ce soir 21h, oui.
Kylian Mbappé, ça lui arrive de rater des matchs. Mais comme tout joueur, Ousmane Dembélé a été sorti.
Aussi, on s'en souvient.
Colomani a été sorti.
Ouais.
Et à juste titre, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur ce plateau à propos de Colomani. Mais Kylian Mbappé, s'il n'est pas bon, et que Luis Enrique estime que sur le banc, il a des meilleures solutions pour finir les fins de match, c'est lui qui décide. C'est le boss.
Donc on arrête de me dire oui, mais c'est le meilleur joueur de ceci, le meilleur. Je m'en fous. C'est Luis Enrique qui décide. Ce soir, il a décidé qu'Kylian Mbappé serait titulaire.
Bien sûr.
Donc, on va voir comment ça se passe. On va voir s'il le sort ou non. Et on va voir la prestation de Kylian Mbappé. On espère, pour le football français et le Paris Saint-Germain, que Kylian Mbappé fera une très grande performance.
Bien sûr.
Maintenant, si c'est pas le cas, oui, quelles décisions vont être prises par Luis Enrique?
Alors là,
et encore une fois, c'est lui qui va décider, parce que c'est lui le patron.
Bien sûr. Ouais. Alors là, on sait pas. On a au 01 53 48 3000 notre journaliste consultant qui n'est autre que Chekib, qui aimerait réagir avec Benji, avec sans oublier Mathieu. Et oui, qui est assez chaud, mais il est tenace et il est bon, Mathieu. Je tiens à le rappeler. Et oui, ça joue la Ligue des Champions ailleurs, et ça joue la Ligue des Champions sur les ondes de la bande FM, et notamment sur Beurre FM avec Benji, tout souriant. Et ça fait plaisir de retrouver Benji et Mathieu. On a un petit clin d'œil aussi de Lulu et de Marie à l'écoute de Beurre FM ce soir. Allez, c'est Chekib qu'on a avec nous. Bonsoir Chekib. Luis Enrique, Mbappé, eh oui, ça fait boum.
Bonsoir. Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Donc,
salut Chekib.
Salut. J'ai appelé moi pour le deuxième sujet. Enrique, as-tu de la solution?
Je trouve
que c'est une question très très intéressante. Alors bien évidemment, on aura la réponse à l'issue du match, mais d'ores et déjà, on peut commencer à analyser. Moi, bien sûr que pour moi, quand je vois la compo, l'animation qu'il veut faire, le Paris Saint-Germain reste largement favori. Il mène 2-0 et c'est une meilleure équipe avec de plus grands joueurs. Par contre, et effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, un des deux, je ne sais pas si c'est Benji ou Mathieu, qui a dit attention, attention à l'entame de match. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, parce que si la Real Sociedad plante son premier, ça risque d'être un peu compliqué pour Paris, parce que un, ils sont à domicile, deux, ils n'ont rien à perdre, trois, cette équipe de Luis Enrique, j'ai l'impression qu'elle est capable du meilleur comme du pire, parce que quand on l'analyse bien, Nuno Mendes est de retour de blessure, Lucas Hernandez, des fois il est central, des fois il est latéral, des fois il est très bon central, des fois moins bon, des fois en latéral il est très bon. C'est pas quelqu'un de complètement fiable qui stagne. Des fois il est un peu plus bas, des fois il est un peu plus haut, donc il faut voir s'il va faire une bonne partie ou pas. Beraldo, c'est quand même un nouvel élément, il vient de débarquer, on attend beaucoup de lui, mais il arrive, c'est peut-être son premier match de Ligue des Champions. Ensuite, il a théoriquement, quand t'as une défense centrale, Marquinhos qui est théoriquement le patron de la défense, ne joue pas parce qu'il a un problème de mollet. Donc aujourd'hui, on a une défense centrale un peu originale en Ligue des Champions. Donc théoriquement, il aurait dû mettre Ugarte pour aider la défense à défendre. Et lui, il a choisi de mettre Ruiz et Vitinha. Donc
intéressant, Chekib, mais parce qu'il veut être offensif, voilà, tout simplement. Ouais. Parce qu'il veut frapper fort dès le début de match.
Ouais, c'est Mathieu qui le dit.
Pour se mettre à l'abri.
Non, mais je suis d'accord. Je dis pas que c'est une erreur. Je dis qu'il a fait des choix forts et maintenant, il faut voir si c'est payant. Parce que quand tu prends un mec comme Vitinha et Fabien Ruiz pour aider la défense, ça veut dire que tu prends des joueurs qui aident la défense à remonter le ballon. T'aides l'équipe. Alors que quand tu prends Ugarte, tu prends un joueur plus qui aide la défense. Et donc, c'est un choix fort. Parce que théoriquement, quand t'as Barcola, Dembélé, Mbappé, et t'as Zahir Emery et Vitinha, et que tu m'insistes, t'es capable de monter le ballon sans avoir besoin d'un Vitinha qui descend le récupérer plus bas. Ça veut dire que théoriquement t'as une équipe qui peut jouer au ballon, mais finalement tu dis non, je vais mettre un mec qui est capable de descendre pour l'aider à remonter le ballon. C'est ça que moi il y a un truc qui me gêne dans son animation, et c'est pour ça que je pense que ils peuvent écraser la Real Sociedad, mais ils sont pas à l'abri, au contraire, de sortir de la Ligue des Champions.
Alors Benji, ouais, peut-être réaction, ouais, ouais, avec ouais,
je comprends totalement ton point de vue, et je pense qu'en fait l'objectif de Luis Enrique, c'est de pas commettre certaines erreurs qu'il a pu commettre lors d'autres rencontres, c'est-à-dire de devoir courir au score ou de devoir jouer face à une équipe dans un match dans lequel il ne mène pas. On a vu ce Paris Saint-Germain pouvoir être excellent lorsqu'il dominait une rencontre et pouvoir justement arriver à avoir beaucoup de mal à faire la différence ou à remonter au score lorsqu'elle était dominée. Et je pense que l'objectif du premier but, comme j'avais évoqué tout à l'heure, et pour moi crucial, dans le sens où ça va dicter tout le rythme de la rencontre. Et si jamais tu marques ce premier but, avoir ce milieu de terrain, pour moi Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery peut être intéressant justement dans la contrôle peut-être de la possession de comment du ballon, la possession du terrain et empêcher justement cette équipe comment de la Real Sociedad de faire le jeu, c'est-à-dire de faire ce qu'elle aime, ouais. Et de voir les obliger peut-être à procéder par contre-attaque là où ils sont peut-être un chouïa moins à l'aise. Donc pour moi, tu as cette capacité peut-être avec ce milieu de terrain à ne pas faire l'erreur de se dire ok, je mène au score, du coup je vais faire rentrer, on va dire pour caricaturer, un défenseur à la place d'un milieu ou un défenseur à la place d'un attaquant, où tu te retrouverais à laisser trop le ballon et à devoir subir de nombreux assauts. Donc c'est pour moi dans cette vision là où il a fait ce choix de ce milieu de terrain. Mais je comprends le point de vue de mettre un Ougarté d'un point de vue plus défensif, mais je pense que de mon côté j'aurais été sur le même milieu de terrain que celui qu'a mis Enrique sur le papier, puisque t'as trois joueurs qui ont la capacité de ressortir le ballon, de trouver des bons espaces avec des passes, et également avec un Zaïre Emery et un Fabian Ruiz qui sont aussi ouais. capables d'avoir ce rôle de numéro 6, de pouvoir descendre très bas et de pouvoir aider à tour de rôle ouais. les défenseurs centraux qui vont être Beraldo et Hernandez.
Alors chez Kéban, termine parce qu'on a beaucoup de monde au standard pour le bon match avec Jouba Nasser.
Oui. C'est ça que je trouve risqué, c'est de mettre trois milieux capables de ressortir le ballon.
Ouais.
Et c'est ça que je trouve. Et je pense que c'est pas nécessaire quand t'as déjà chacun d'eux tout seul peut le faire. Et l'on met trois. Et en plus, t'as Dembélé, Barcola, Mbappé qui savent jouer au ballon, qui savent le monter. Je trouve que c'est trop risqué. Deux, ça traduit comme une faiblesse ou un manque de confiance. Et trois, ça manque de constance. Le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain d'hier. C'est-à-dire que je sais pas encore. C'est quoi sa recette au Paris Saint-Germain, mais en début de saison, c'était pas du tout la même équipe. Les titulaires d'hier sont plus titulaires aujourd'hui. Ceux qui sont titulaires aujourd'hui sont pas à leur poste. Donc, c'est pas très, très, très stable. Et encore une fois, ça peut très bien fonctionner et ça peut pas fonctionner du tout. C'est un peu comme ce qu'il faisait avec l'équipe d'Espagne. Il a fait beaucoup de paris et finalement, ça a pas marché et ils l'ontègent. Voilà, grosso modo, je rends l'antenne.
Mais merci, voilà. Merci.
Merci, c'est hyper intéressant. Justement, merci Chekib d'avoir été avec nous. Le pronostic, Chekib, un pronostic avant de nous quitter. Le pronostic.
Justement, c'est très difficile. Tout va dépendre du premier but. C'est ça le truc. C'est pour ça les entreprises de Paris font des milliards, parce que ça fluctue beaucoup.
Ouais. Merci Chekib d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Benji, avant de retrouver aussi Jouba. Ouais, Jouba, il est prêt, hein, avec Nasser.
Pour revenir sur ce que disait Chekib qui était très intéressant, je pense que Fabian Ruiz peut avoir cette capacité à avoir ce rôle de numéro 6. Voilà, que Chekib évoquait de la part d'Aougarté, ouais. dans un rôle moins physique, avec moins d'impact, certes, que peut le mettre Aougarté.
Mais un peu plus de technique.
Mais voilà, plus de technique, qui est capable aussi de mettre, le pied sur le ballon, calmer, et même d'aller de gratter énormément de ballons, peut-être dans un rôle plus de récupérateur que ouais. de milieu défensif.
Allez, le 0153483000, on est en compagnie de Jouba, notre Jouba national. Bonsoir Jouba.
Bonsoir messieurs, je suis très content de vous retrouver en direct là sur Beurre FM.
Eh ben nous aussi Jouba.
Bonsoir le Jouba. Ouais.
On parle football Jouba.
Salut Jouba.
Voilà, c'est ça, oui. La Coupe d'Europe.
Et moi, contrairement à certains confrères, plus con que frères d'ailleurs, je vais pas les enterrer certains joueurs, je vais juste dire que du côté de la Real Sociedad, il faudra
vérifier
d'un certain Kubo. Je pense que ce joueur-là peut faire la surprise.
Ouais.
Il a été repéré très jeune, on le rappelle, hein, du
Alors.
Côté de l'Espagne, etc. Donc ça, il peut apporter quelque chose. Comme ce qu'a dit auparavant d'autres confrères. Là, je sais pas qui parlait là.
C'est Chekib. Chekib avec ouais, Mathieu Chekib. Et Benji.
Chekib, voilà. Donc il y a eu de bonnes choses de dites de l'ami Chekib. Donc il y a eu donc il faudra se méfier de ce premier but qui peut être dangereux. Moi, je pense que quand même, là, c'est des professionnels. Là, Kylian Mbappé, il est rodé, à moins que Macron l'appelle pour faire la guerre. Mais sinon, Kylian Mbappé devrait répondre bien présent. Normalement, il va pas l'envoyer en Ukraine.
Ouais. Quand même, arrête, Jouba, quand même. Il est footballeur.
On laisse au football. De l'enjeu, ils ont justement cette envie-là de montrer à la capitale qu'ils vont répondre présent. Donc, je pense
Attends, parce qu'ils n'avaient pas conscience de l'enjeu les années précédentes.
Je comprends pas.
Hein.
Les années précédentes, non, je pense pas.
Selon Jouba, non. On doit marquer d'une courte pause, Jouba. On revient rapidement avec toi, c'est promis, Jouba. On va revenir avec Jouba et après Nasser et Moha.
Time Sport revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h. C'est la dernière partie de Time Sport. Et oui, spécial Ligue des Champions. C'est l'avant-match. On se mardi 5 mars, 20h et 34 minutes. La Real Sociedad qui joue face au Paris Saint-Germain. Sous les yeux, voilà, comme ça, bien grand ouvert de notre réalisateur qui n'est autre que Solal. Au 01 53 48 3000. Un petit clin d'œil à Solal et aussi à Jouba qu'on va reprendre. C'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, c'est Lulu qui nous dit carton plein de la Real Sociedad. Il est vraiment à l'écoute, ce Lulu. Ça fait sourire Mathieu ce soir. Eh oui, grand amoureux de Football Manager. Mathieu aussi. On a beaucoup de cracks ce soir. Ouais, ben, des cracks, je veux bien m'exprimer, mais voilà. De pépites, hein.
C'est
voilà.
Ça, parce on va que, utiliser. Je pense que Mathieu, sur Football Manager, ouais. N'est pas un crack.
Aïe.
Puisque, il est vrai, Jouba, les gens sont pas là pour entendre parler de ça. C'est vrai que je le domine sur une partie multi. Joueur avec l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille.
Voilà, c'est pas mal l'Olympique Lyonnais aussi l'Olympique de Marseille.
J'aimerais bien répondre à Jouba quand même.
Allez Jouba, si Jouba est là et tu vas lui répondre et après on retrouve Nasser.
Parce que Jouba, quand tu me dis que cette année ils ont conscience et que